carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission au Carrefour des Arts. Je reçois Anne Muratori-Philippe, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, journaliste et écrivain. Bienvenue dans cette émission. Vous travaillez beaucoup sur les personnages et les monuments. Vous avez écrit L'Hôtel des Invalides, paru chez Perrin. Et je vous reçois aujourd'hui pour nous parler d'un livre qui est paru aux éditions du Patrimoine, qui s'intitule Le Panthéon. Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'une collection dont vous allez nous parler tout à l'heure. Alexandre Dumas, Victor Hugo, mais aussi Voltaire ou encore Marie Curie sont entrés de sa devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». On ne croirait pas à l'ancienneté du monument et les difficultés qu'il a connues pour être restauré. Nous sommes là pour en parler avec vous. Le bâtiment remonte à l'an 496, je crois.
Oui, enfin pas tout à fait le bâtiment, mais en tout cas le lieu, l'église, puisque le Panthéon était au départ une église, remonte à l'époque de Clovis.
Très ancien.
Tout à fait. C'est encore plus prestigieux, c'est que Clovis a fait bâtir cette toute première église qu'il avait dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul sur l'ancien forum gallo-romain de Lutèce. Donc nous sommes vraiment au carrefour de l'histoire.
Et alors, comment a évolué ce bâtiment pour devenir un monument extraordinaire? Quels ont été les grands moments finalement clés de son développement? S'il y a un ou deux instants dont vous vouliez nous reparler peut-être?
Alors au départ, Clovis avait voulu ériger une église et en même temps y faire sa sépulture. Et comme Clotilde était très proche de Sainte-Geneviève, la célèbre Sainte-Geneviève qui a défendu Paris des Huns, Clovis, à la mort de Sainte-Geneviève, a décidé qu'on allait l'enterrer dans ce lieu. Et voilà pourquoi cette église qui s'appelait à l'origine Saint-Pierre-Saint-Paul est devenue très vite pour les Parisiens l'église Sainte-Geneviève et c'est aussi la montagne Sainte-Geneviève. Donc c'est devenu un lieu très important au plan historique, au plan des pèlerinages. Et puis il y a eu une abbaye donc, qui s'est agrandie au fil des siècles et puis qui a périclité après le passage des Normands. Et lorsque nous arrivons au siècle de Louis XV, eh bien, cette église Sainte-Geneviève est toujours un pèlerinage très coté, mais l'abbaye est en perte de vitesse, elle a des problèmes financiers et en plus la structure du bâtiment menace de s'écrouler. Et c'est là qu'entre en scène Louis XV. Louis XV, de retour de la guerre de succession d'Autriche, en 1744, vous savez que Louis XV a été gravement malade à Metz, il a failli mourir et qu'il en a réchappé. Après avoir abjuré toutes ses fautes, ce qui a posé problème plus tard au cours de son règne, lorsqu'il est rentré à Paris victorieux, Paris l'a accueilli par un tédéum et lui a voulu remercier Sainte-Geneviève de l'avoir sauvé. Donc il est allé en pèlerinage ce jour-là à Sainte-Geneviève et les moines de Sainte-Geneviève, qu'on appelle les Génovéfains, ont montré à Louis XV cette abbaye qui était en train de s'écrouler. Et Louis XV a promis et a fait le vœu d'offrir une nouvelle église à Sainte-Geneviève.
Le voilà donc en sauveur.
Voilà, ça se passait en 1744, mais il va falloir attendre 1754.
Un petit peu long, Louis XV.
Eh oui, mais il y a des problèmes financiers, il y a beaucoup de difficultés. Finalement, Louis XV se décide, et c'est l'époque de Madame de Pompadour, et le frère de Madame de Pompadour est surintendant des bâtiments du roi, donc le marquis de Marigny, choisit Soufflot, qui est un jeune architecte bourguignon, qui a des idées, qui revient d'un voyage en Italie, qui est passionné par Saint-Pierre de Rome et à qui on confie ce projet. Soufflot décide, puisque c'est l'église Sainte-Geneviève et que donc le cœur central de cette église sera la chasse de la Sainte, qu'est-ce qu'il fait? Il part de la Sainte et il décide de créer un écrin, mais un écrin à la manière de Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire avec des grandes voûtes. Au départ, il imagine une croix romaine. Ensuite, l'Église le forcera à voir une croix grecque en allongeant une nef. Mais toute cette église va être couverte de baies. Il y aura 42 baies qui feront entrer la lumière, aussi bien du dôme que des murs, des nefs, de façon à ce que la lumière et le soleil dardent ses rayons sur la chasse de la Sainte qui est brillante, ornée, etc. Donc c'est un bijou, en fait, qu'il veut créer. Donc Soufflot construit cette église, mais d'abord il y a énormément de difficultés. Il se rend compte que le sol n'est pas très stable. Il y a 69 carrières de l'époque gallo-romaine qu'il faut combler.
Oh, donc, énorme travail.
C'est un énorme travail et il est obligé de prévoir des fondations beaucoup plus importantes qu'à l'origine. Ce qui fait qu'il y a dans le livre des photos qui montrent d'ailleurs ces soubassements et on voit des structures architecturales étonnantes. Ça fait un peu cyclopéen parfois et c'est énorme. Ce qui fait que la crypte de cette première église, qui devait accueillir une trentaine de moines, la sépulture d'une trentaine de moines, se retrouve aujourd'hui à l'heure actuelle avec près de 280 tombes possibles. Il n'y en a que 72 d'occupées. Donc vous voyez que nous avons le temps pour faire entrer les grands hommes au Panthéon.
Comment la population vit l'évolution des travaux ?
Alors la population, bon, c'est Sainte-Geneviève. Hein. À l'époque du roi de France, c'est la patronne de Paris. Donc il y a des pèlerinages, il y a des gens qui viennent de province et de l'étranger assister à la fête de Sainte-Geneviève. Et donc les Parisiens sont très intrigués par ce qui se passe. En 1764, Louis XV vient poser la première pierre. En fait, c'est faux, les fondations sont déjà faites. Le monument sort de terre.
Un peu de politique ne fait pas de mal.
Vous avez tout compris. Et Louis XV vient poser cette première pierre. Et là, on a créé pour lui un échafaudage factice, c'est-à-dire on a reconstitué en toile peinte ce que sera le Panthéon. Et grandeur nature, c'est ça qui est fou. On n'imagine pas ce tableau de De Machy. C'est De Machy lui-même d'ailleurs qui a créé cette immense structure. Et Louis XV est arrivé, il a passé sous le porche. On pouvait croire qu'il entrait dans l'église. Il a déposé la première pierre sous les ovations des Parisiens. Sous Louis XVI, ça a été un petit peu plus difficile. Au départ, Louis XVI et Marie-Antoinette n'étaient pas très attirés par le monument. Et puis, Soufflot est quand même arrivé à les décider. Ils ont Soufflot et l'architecte suivant, parce que Soufflot est mort assez vite. Et Louis XVI a décidé de poursuivre la construction. Et effectivement, l'église a été achevée en 1790.
Vous expliquez dans le livre que ce serait la maquette qui aurait poussé Marie-Antoinette et Louis XVI à mettre encore plus de cœur à l'ouvrage.
L'architecte ne savait pas du tout comment les convaincre et donc il avait fait pour ses travaux ainsi que pour Soufflot, et c'était Soufflot et Rondelet, son élève, pour faciliter leur expérience parce que le but du Panthéon pour Soufflot, c'était de battre les records de construction. C'était la première fois qu'on créait un dôme formé de trois coupoles de pierre. À l'hôtel des Invalides, vous avez trois coupoles, mais il y a du bois, il n'y a pas de pierre. Là, ces trois coupoles de pierre, c'était un pari extraordinaire. Donc ils avaient construit cette maquette pour leur travail et en même temps, ils l'ont montré à Louis XVI et Marie-Antoinette. Et là, je pense qu'ils ont compris, ils ont décidé de continuer les travaux.
L'idée de faire de ce monument un monument d'éternité pour les grands hommes, est-ce que c'est l'idée de départ ?
Pas du tout. L'idée de départ, c'était l'église de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, la protectrice du royaume et des rois. Donc voilà l'idée de départ. Et c'est la Révolution qui va tout changer.
D'accord. Sur le plan architectural, qu'est-ce qui fait sa renommée, sa particularité ? Est-ce qu'il y aurait un point, un endroit du Panthéon que vous souhaiteriez évoquer ?
Alors, la particularité, c'est effectivement le tour de force architecturale de Soufflot qui a créé ces fameuses trois coupoles.
Voilà, que vous venez de mentionner.
Si vraiment le visiteur veut voir quelque chose d'extraordinaire, les visites ne montent pas dans la coupole, mais on peut monter dans le premier étage du tambour et arriver quand même à apercevoir un petit peu mieux la manière dont Soufflot s'y est pris pour surmonter ces trois coupoles.
Et dans le livre figurent également des photographies très intéressantes. Est-ce que vous pourriez nous en commenter une ou deux au choix ? Parce qu'il y a une iconographie très très précise. Le choix des photos a-t-il été compliqué ?
Le choix des photos n'a pas été compliqué. Nous avions, en gros, en nous promenant dans le monument, on avait notre petite idée. Mais le plus difficile a été la réalisation des photos parce que nous avons voulu montrer aussi un Panthéon insolite, les dessous du Panthéon. Donc il y a une photo que j'aime beaucoup. Il paraît qu'il y a un film qui a été tourné, mais je n'arrive pas à savoir quel film a été tourné dans cette partie. C'est une photo qui montre le dessus des coupoles, des voûtes donc, du Panthéon. On est au pied du dôme et on est sur ces voûtes. Et il y a un grand parquet avec des lattes très anciennes, donc on sent qu'elles n'ont pas bougé depuis 1790. Et il y a de temps en temps des treuils, on se croirait à bord d'un navire. et ces treuils permettent de remonter les lustres. Parce qu'on n'imagine pas, mais au Panthéon, il y avait 10 lustres qui éclairaient la grande nef.
Un travail titanesque. Et dans ce Panthéon, évidemment, de grands hommes sont entrés. Et trouvons-nous des académiciens parmi eux, Madame Muratori-Fili?
J'en ai recensé 11.
Ah oui, quand même.
Oui. Alors évidemment, toutes académies confondues, si je puis dire.
Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns?
Alors, vous avez quand même Voltaire.
Voltaire, bien sûr.
Alors, je vous cite ceux de la française. Il y a Voltaire, il y a le juriste Portalis, l'homme du Code civil. Il y a bien sûr Victor Hugo. Et il y a Marcelin Berthelot. Marcelin Berthelot, c'est le chimiste qui a été professeur au Collège de France. Il a donné son nom à la place qui est devant le Collège de France. Il a été professeur de chimie à l'école de pharmacie. Il a joué un rôle important à l'Académie des sciences. Et il a même habité l'Institut.
Oui, oui, très grand personnage.
Il est mort, curieusement. Il est allé à la séance de l'Académie l'après-midi en laissant chez lui, à l'Institut, son épouse Sophie Berthelot, qui était malade. Et quand il rentre de la séance de l'Académie, on lui apprend qu'elle est morte. Et lui, il meurt le lendemain. Il meurt de chagrin. Et ça a été un coup tel qu'on a décidé que Marcelin Berthelot ne rentrerait pas seul sous le Panthéon. Et il est accompagné de son épouse Sophie. Et c'est la première femme qui est entrée, si je puis dire, au Panthéon.
D'accord. Alors, je crois que ce fait va beaucoup intéresser nos auditeurs parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. Alors, qui d'autre? D'autres noms ou on...
Oui, bien sûr. Oh, allez, vous aviez Condorcet, qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Mm-hmm. Monge, le créateur de l'École polytechnique, qui était aussi à l'Académie des sciences. En fait, il y a beaucoup de scientifiques. Hein. Paul Langevin, physicien, chimiste, grand ami de Einstein, qui était à l'Académie des sciences. Jean Perrin, toujours à l'Académie des sciences, prix Nobel de physique, qui a créé, lui, le Palais de la Découverte. Et puis Joseph Lagrange, le mathématicien. Et ensuite, il y a deux personnages qui sont entrés bien avant les physiciens. Ce sont deux marins. Vous avez le comte de Bougainville en 1795, membre de l'Institut, et le comte de Fleuriot qui a été ministre de la Marine aussi, pareil, 1795, membre de l'Institut.
Beaucoup de noms illustres.
Vous avez 11 personnages.
Merci beaucoup. Comment est perçu aujourd'hui le Panthéon du grand public ?
Les Français ne savent pas très bien en quoi consiste le Panthéon. Ils savent qu'il y a des personnages célèbres, mais ça s'arrête là. Ils pensent à Jean Moulin, bien sûr, parce que tout le monde se souvient de l'entrée de Jean Moulin avec le discours de Malraux. Mais bon, on sait vaguement qu'il y a Voltaire, Rousseau. Ils ne perçoivent pas très bien et ils n'y vont pas. Les Français ne sont pas tellement attirés par le Panthéon. Les étrangers visitent énormément le Panthéon. Et vous avez, je crois, la tombe la plus visitée, c'est celle de Marie Curie. Il y a des quarts entiers de Polonais qui viennent déposer une rose sur le cercueil de Marie Curie. Et sinon, Dumas, Victor Hugo sont appréciés. Il y a aussi un autre élément qui attire le public, c'est qu'on a remis le fameux pendule de Foucault. Foucault avait fait une expérience scientifique pour montrer la rotation de la Terre en 1848. Expérience qui avait pris fin en 1851 avec le coup d'État de Napoléon III. On avait arrêté, on avait supprimé, on avait même fermé le Panthéon. Donc le pendule de Foucault avait été démonté, on n'en parlait plus. Ensuite, il y a eu une reprise de l'expérience pour l'année de la science, je crois en 1995. On l'a laissé un petit peu, on l'a à nouveau enlevé. Et là, on l'a remis, apparemment c'est définitif parce que les administrateurs du Panthéon se sont rendus compte qu'ils généraient aussi un certain public qui était plus passionné par cette expérience. Donc, ils vont le maintenir avec l'accord du CNAM, puisque le pendule de Foucault a été fait en collaboration avec le CNAM.
Est-ce que la grandeur de ce monument vous choque d'une certaine manière? C'est-à-dire, c'est tellement grand.
Alors, il y a une chose, moi, qui me choque. C'est que, comme je vous ai dit au début, Soufflot a voulu créer une église ouverte avec 42 baies partout, le dôme entièrement ouvert avec des systèmes de fenêtres qui distribuaient la lumière sur la coupole. Donc c'était un bâtiment extrêmement lumineux. La Révolution a voulu en faire un mausolée pour ces grands hommes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Quatre-Mères de Quincy de boucher les baies. Et on a bouché 39 baies. On a bouché toutes les baies du rez-de-chaussée, enfin, si je puis dire. Maintenant, nous sommes dans un monument qui a perdu son âme, qui a perdu l'idée première de Soufflot. Il a été dénaturé. Là, on s'est retrouvé avec ce bâtiment qui avait des longs murs vides. Il a fallu les décorer. Et en fait, ce monument qui a changé d'affectation, qui a été église ensuite, qui est devenu panthéon des grands hommes, sous Napoléon est redevenu église et panthéon des grands hommes, puis ensuite qui a vécu les révolutions, enfin qui a vécu la commune, où c'est devenu une réserve de poudre. Et sous Napoléon Ier, c'est redevenu une église, même voire une basilique. Mais il n'y avait pas d'argent pour faire un décor somptueux. C'est la Troisième République qui a finalement trouvé quand même que ces grands murs vides, il fallait poursuivre le décor qui avait été imaginé. Et c'est la Troisième République qui a fait et terminé ce décor, où on y raconte les grands faits de l'histoire. Donc c'est un livre d'histoire. Vous avez les peintures de Puvis de Chavannes qu'on retrouve dans tous les livres, les manuels scolaires, avec la vie de Sainte-Geneviève, Sainte-Geneviève veillant sur Paris. Vous avez la bataille de Tolbiac, Jeanne d'Arc, bien sûr, Charlemagne. Donc les hauts faits de l'histoire de France sont présents au Panthéon. Mais ça a été créé pour essayer de donner vie un peu à ce bâtiment qui est tellement grand et qu'on a voulu tellement assombrir pour en faire un mausolée que, à mon avis, il a perdu son âme.
Alors, allons quand même le voir et lisons votre livre intitulé « Le Panthéon » paru aux éditions du Patrimoine dans une collection. Vous pourriez nous dire quelques mots sur cette collection ?
Alors, la collection « Au regard » a été créée en 2007. En fait, les éditions du Patrimoine voulaient utiliser des campagnes de photos totalement inédites qu'ils ont sur leurs monuments nationaux et ils ont demandé à des historiens d'essayer de raconter, mais de raconter en y mettant leur cœur. Ils n'ont pas voulu un texte d'historien de l'art, ils ont voulu un texte un peu chaleureux qui accompagne ces photos. Donc il y a eu l'Arc de Triomphe, il y a eu le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne et puis je crois le château de Vincennes qui vient de sortir.
Alors j'invite nos internautes à écouter une émission qui avait été réalisée précédemment sur l'Arc de Triomphe et puis de lire tous ces beaux livres. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission nous parler de ce très très beau monument et nous nous retrouvons très prochainement.
Merci à vous.